Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Transistor. Je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée dans Spectateur. Nous sommes déjà en novembre et c'est que ça vous avait manqué, hein, les spectacles du Théâtre Cantor. Grâce à notre partenaire En Scène, nous partirons toute l'année à la rencontre de dramaturges et de metteurs en scène et nos critiques reviendront chaque mois sur les spectacles de la saison 2014-2015. Pour ce 30e numéro, dites bonjour à mes critiques justement. Elle est malade comme un chien depuis deux semaines, je l'ai quand même traînée au théâtre, Mathilde.
Bonjour.
Elle, je l'ai croisée à la sortie du spectacle et hop, recrutée d'office, toujours sur la base du volontariat, Maëlys.
Bonjour.
Et surtout, deux précieuses voix masculines, ce qui ne m'est jamais arrivé depuis que je suis sur Transistor. Je l'ai délogé de derrière la table de mixage, il est venu parce que les affiches du spectacle l'avaient intrigué, Clément.
Bonjour.
Pour le coup, c'est lui qui est à la technique, ce qui ne l'empêchera pas de venir nous parler de son addiction au Théâtre des Célestins en seconde partie d'émission. Ça se soigne, hein, Nicolas ?
Difficilement.
Alors, souvenez-vous l'année dernière, En Spectateur était En Spectatrice, et pas moyen d'avoir de beaux chroniqueurs dans cette émission. Inégalité des sexes. Eh bien, on reste un peu dans ce registre, avec Et on inventera d'autres danses, une pièce de théâtre qui, comme son nom ne l'indique pas, veut traiter du féminisme. Elle a été mise en scène par Julienne Lachaud, Marie Le Guerneri et Alix Tulipe, de la compagnie des Contomaîtrises. On y écoute les discours de six femmes, deux vieilles qui ont traversé le XXe siècle, et quatre jeunettes d'aujourd'hui. Je précise pour les auditeurs qui, comme moi, ne lisent pas le livret, que la pièce a été écrite en retranscrivant des entretiens réellement menés. Le temps d'une respiration musicale, et Mathilde vous dit ce qu'elle en pense.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes. Voir sous les jupes des filles et la vie tout entière.
Scène banale de la vie quotidienne. Mais attends, t'es vraiment féministe ? Bah évidemment, pourquoi tu l'es pas toi ? Bah non ! Le génie de Et on inventera d'autres danses, c'est de donner à voir, de recréer, de sublimer ces merveilleux moments d'incompréhension inhérents à toute conversation ayant trait aux problématiques féministes. Ah, le lieu commun, l'idée reçue. La réflexion à la fois affligeante de banalité et révoltante de naïveté, qui est d'autant plus tordante qu'elle se croit véritablement subtile. L'ambition de la pièce, c'est mettre en scène les propos qui se sont véritablement tenus lors de débats féministes. Et, il faut absolument le dire dès maintenant, la démarche ne manque pas de brio. De ce type d'humour absolument succulent qui consiste à faire entendre des propos que le spectateur jugera tour à tour révoltants ou pertinents. Bref, de malice que je me souviens avoir qualifiée plusieurs fois de quasi flaubertienne. Et ce n'est pas peu dire chez moi, admiratrice number one de ce cher Gustave. Le socle sur lequel repose néanmoins ce fragile édifice, c'est la mise à distance. Et dans ces voix bégayantes, jeunes filles que l'illusion théâtrale et un jeu d'actrice éblouissant transforment en grand-mère, notre chère mise à distance est bien au rendez-vous, et les pires insanités, complètement sexistes, nous révoltent souvent bien plus que si n'importe quel discours féministe s'était employé à les malmener. Mention spéciale également pour l'actrice qui a allumé sa clope sur scène, bon, il en faut toujours une dans une pièce en cantor, comme pour indiquer « alerte, alerte, discours de comptoir ». J'aime ces faux airs de Florence Foresti, ces délires sur le féminisme qui décidément en fait trop. Mais y en a marre de l'égalité, je veux dire, non mais moi, personnellement, c'est bien qu'on ait le droit de vote, mais bon, faut pas trop non plus en faire, parce que bon, c'est un peu exagéré, hein, c'est un mauvais féminisme ça, non mais oui, il y a des hystériques, c'est vrai. Et on inventera d'autres formes théâtrales, et on sera réjouissante d'inventivité, et on fera entendre toutes ces voix. Mais attention, n'est pas un faux abruti qui veut. Et c'est là que le bât blesse. On subit une bonne heure de banalité sexiste affligeante, de la pire espèce, celles qui se croient féministes et qui peuvent se revendiquer comme telles, dans un monde où malheureusement la tâche de distribuer les bons points et les bonnets d'âne du féminisme ne revient pas à ma brillante personne. Et parfois je me demande si ces discours ne sont pas prononcés au premier degré. Non mais nous les filles, si on a besoin de faire confiance à notre partenaire, c'est parce que tu comprends, mon vagin est une antre qu'on pénètre, donc c'est important, tu sais. Ah mais oui. Alors là, je sais pas ce que c'est que le problème, c'est peut-être un moins bon jeu d'actrice, tout le monde ne prend pas 55 ans sur commande, je sais. Ou peut-être que le problème, c'est que dans ce mélange parfois indigeste de discours dissonants, la vérité disparaît. Tout avis sur la question se fait vérité, et on inventera chacun la sienne.
Merci Mathilde. Alors, Mélisse, je te voyais sourire. Ça t'inspire quoi ?
Moi, je voudrais souligner ce que tu n'as pas souligné, Mathilde, dans ta chronique. La scénographie qui a été particulièrement soignée. J'ai beaucoup aimé les couleurs. Clément n'est pas d'accord.
Alors, Clément n'est pas d'accord.
Mais le fait d'écrire derrière à la craie, des mots, etc., je trouvais ça assez intéressant. Et puis, la corde à linge qui a été accrochée au plafond et qui a défilé tout du long avec... Enfin, c'était à la fois esthétique et ça a évoqué beaucoup de choses du point de vue des travaux domestiques féminins. Après, je suis assez d'accord avec Mathilde, en fait, sur la teneur du discours féministe qu'il y avait derrière. Pour moi, en fait, je pense que le mélange, c'était aussi une manière de faire passer la pilule, tu vois, de thèse féministe un peu hard et un peu parfois dur à entendre. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu adouci par la mise en scène et par les discours qui se mélangeaient. Mais après, c'est vrai que ça m'a pas bouleversée, j'en suis pas sortie avec de nouvelles perspectives émotionnelles ou intellectuelles.
Alors, du coup, tu penses que quelqu'un qui ne serait pas féministe, par exemple, qui va voir la pièce, n'en est pas forcément ressorti grandi ?
Disons qu'il y a des petites réflexions par-ci par-là qui poussent à la réflexion. Par exemple, la réflexion sur sur tout ce qui est les danses, en fait, ou les danses de couple, où c'est l'homme qui mène, etc. Je trouvais ça assez intéressant, mais c'était pas poussé, en fait. Ça me pointait du doigt, mais ça disait pas trop ce qu'il fallait en dire, ce qu'il fallait en penser, et c'était pas très tranché comme avis.
Moi, je suis ressortie assez mitigée, en fait. Je savais pas trop quoi en penser, et maintenant, avec un peu de recul, je suis un petit peu déçue. Déjà parce que le spectacle s'appelle « On inventera d'autres danses ». Moi, je pensais vraiment voir de la danse, en fait, naïf que j'étais.
On t'a trompé sur la marchandise.
Mon horizon d'attente a été complètement déçu.
Ah, mais il fallait lire le livret, hein, voilà.
Non. Oui, mais enfin, le livret, je l'ai eu en entrant dans la salle.
Il fallait lire la description sur le site de notre partenaire en scène.
Très bien, bon, c'est de ma faute, alors. Enfin, j'ai trouvé que c'était gentil, en fait. Ça contrastait avec une affiche qui était assez osée. Et j'ai trouvé que le fond du spectacle était relativement gentil. Je me suis pas senti vraiment attaqué, je me suis pas senti vraiment inclus dans le spectacle à un moment ou un autre. Enfin, j'ai eu du mal à accrocher. Par exemple, les coupures avec les films. Je trouve que c'était une très bonne idée, mais que ça durait très longtemps. Et que chaque film durait extrêmement longtemps. Et j'ai eu un peu l'impression, vraiment, au bout d'un moment, que c'était un peu un cache-misère, que c'était une excuse pour regarder le film et pas jouer. J'ai vraiment ressenti ça. Ensuite, j'ai trouvé les deux grand-mères très bonnes dans leur jeu, et je trouvais qu'elles faisaient vraiment grand-mère et qu'il y avait quelque chose de là qui était très bien. Mais les autres actrices, enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un problème de ton. Voilà.
D'accord, on va revenir justement sur le jeu des actrices. Alors, elles étaient 6. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette différence entre les 4 actrices qui sont justement censées jouer les jeunes et les deux qui étaient plus vieilles ? Mathilde ?
Alors moi, je l'ai précisé un peu dans ma critique, j'étais absolument éblouie par les grand-mères. Je pense qu'il y avait vraiment, elles ont dû énormément écouter des vieilles parler, finalement, parce qu'il y avait, je pense, quelque chose dans lequel on s'est tous retrouvés. Voilà, les grand-mères qui parlent, en fait, et qui disent parfois des choses très intelligentes, avec un point de vue très différent du nôtre. Et bon, parfois, il faut le dire, des trucs pas très malins, mais toujours avec ces intonations et cet effort-là. Peut-être pas, est-ce que je suis la seule à avoir ressenti le fait que chez les jeunes, il y avait celle que j'ai appelée Florence Foresti, là, qui en fait disait des trucs. Alors, il y a eu cette fameuse scène où elle fume sa clope, et moi qui m'a marquée, parce qu'elle disait vraiment des trucs, bon, que j'ai envie de m'arracher les cheveux. En fait, elle avait ce ton un peu, je dis des bêtises, elle arrêtait pas de dire moi, personnellement. Et en fait, on se rendait compte qu'elle disait des conneries, quoi. Et en fait, moi, c'est plutôt, les trois autres qui m'ont pas convaincue et... Dans lequel il y avait une moins bonne mise à distance des propos.
D'accord, comme si tout était mis sur le même plan, les aberrations un peu des vieilles et le reste.
Mais en fait, j'avais pas l'impression qu'elles jouaient les autres.
D'accord. Mais après, c'était les grand-mères qui étaient vraiment au centre du discours, en fait. Elles questionnaient leur grand-mère et ça se limitait à ça. Après, moi, ça m'a beaucoup rappelé les discussions que j'ai eues avec ma grand-mère. Donc, je trouvais ça assez réaliste. Et puis, à la fin, il y avait l'enregistrement original entre la petite fille et la grand-mère et qui avait été joué au début de la pièce. Enfin, moi, franchement, il n'y avait aucune différence entre les deux tons. Enfin, c'était tellement réaliste, ça avait été tellement bien retranscrit dans le jeu des actrices que j'ai été assez bluffée. Après, je pense que c'était plus des petits détails par-ci, par-là, de justesse, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que les actrices se sont vraiment bien débrouillées.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur des moments particuliers de la pièce, qui étaient ce que j'appelle les moments de cacophonie, au sens où toutes les actrices se mettaient à parler en même temps, à répéter les mêmes phrases en boucle. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Comment vous le comprenez par rapport à la démarche des metteuses en scène ? Est-ce que vous ne trouvez pas, d'une certaine manière, que c'est un peu véhiculer encore une fois un cliché sur les femmes qui piaillent, qui bavardent et qui n'arrivent pas à tenir un discours cohérent? Comment est-ce que vous interprétez ça?
Alors moi, je l'ai pas du tout vu comme les femmes qui piaillent, j'avais absolument pas pensé à ça, mais pourquoi pas. J'ai trouvé l'idée intéressante, parce que je trouvais que c'était vraiment le repli sur soi, là, pour le coup, je trouvais que c'était une bonne idée parce que c'était le repli sur soi qu'on a quand on débat. Il y a toujours un moment dans un débat où on se retrouve à rester sur ses positions et à plus pouvoir avancer. Et en général, le débat se finit à ce moment-là. Et ça peut devenir violent. Des fois, on a souvent des exemples de débats où chacun reste pendant 25 minutes sur ses positions. Ça n'avance absolument pas. Et j'ai trouvé que ça mettait bien en avant cet aspect de discussions et de ce que sont les discussions en général.
Sur le fait que le propos était un peu flou et un peu brouillé par les multiples voix. Enfin, d'un autre côté, je me dis qu'on n'est jamais, même quand on adhère à des thèses féministes, etc., on n'est jamais complètement cohérent avec soi-même. Il y a forcément des moments où on est rattrapé par les clichés, les stéréotypes, et on se comporte suivant ces clichés, ces stéréotypes-là. Et je trouvais que pour le coup, dans la pièce, ça pouvait aussi s'interpréter comme voilà, cette ambivalence en fait, qu'on a entre nos idées, les stéréotypes.
Moi, je dirais qu'il faudrait quand même prendre conscience du fait qu'on n'était pas dans un débat féministe, on n'était certainement pas dans une conférence. Et finalement, cette réflexion sur ce que c'est que le débat, ce que c'est que le discours, même si parfois, justement, elle dérange les féministes que nous sommes, eh bien, il faut aussi accepter que c'était une réflexion sur le discours et le débat. Mmh. Voilà.
Alors, dernier point négatif pour moi, c'est que j'étais avec des amis de genre masculin, ils ont bien apprécié la pièce, mais ils ont trouvé ça un peu caricatural. Pour moi, ce qui serait vraiment révolutionnaire, en fait, ce serait de faire une pièce féministe, mais avec des hommes et des femmes qui auraient des choses à dire et qui exprimeraient, voilà, les diversités de points de vue.
Une question de conclusion. Alors, je regrette beaucoup de ne pas avoir pu rencontrer les metteuses en scène. En revanche, je vais quand même reprendre leurs mots. Ce sont ceux qu'elles emploient dans le livret qui était fourni à l'entrée du théâtre. Et dedans, elles disent « Il nous a semblé juste de faire entendre ces voix qui n'ont rien de révolutionnaire à dire et rien qui ne se prétende autre chose qu'une parole personnelle et singulière. » Est-ce que vous trouvez que la pièce a atteint son but ? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant d'offrir un instantané d'opinion de femme en 2014 sur scène ? Et est-ce que vous trouvez que c'était un bon moyen de rafraîchir la question du féminisme, sachant qu'au fond, ça ne reste quand même qu'un enchaînement d'opinions ?
Je suis pas certaine que le féminisme soit un enchaînement d'opinions, mais c'est un tout autre débat. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a une vérité. Et je regrette juste que parfois la pièce donne l'illusion que chacun a son avis sur la question, qu'on s'en fiche finalement de ce qui est vrai, ce qui est faux, comme s'il n'y avait pas derrière des vies brisées, des violences. Bon, au-delà de ça, je suis assez enthousiasmée par l'idée de réfléchir sur ce que c'est que les opinions personnelles, les discours, et je vois bien qu'il y avait cette ambition-là, et je regrette juste qu'à certains moments, peut-être, c'était rattrapé par le fait qu'il y a forcément une dimension militante et forcément une attente du public qui est autre que celle de recevoir, voilà, des banalités.
Maëlys ?
Moi, je pense que les nombreuses hésitations qu'avaient les comédiennes dans leur jeu étaient assez fidèles aussi aux questions qu'on se pose, filles ou garçons, à propos de toutes ces thématiques-là. Finalement, je trouvais ça assez réaliste, en fait. Et, le théâtre n'est pas forcément un lieu de militantisme, mais il en faut pour tous les goûts. Et c'est aussi un lieu où on vulgarise des thèmes politiques un peu moins populaires et un peu moins...
Oui, c'était pas une conférence, hein, rappelons. Voilà.
Clément.
Moi, encore une fois, le problème que j'ai dans le fait de restituer l'instantané de ces discussions, c'est que je trouve que ça a très bien marché avec les deux grands-mères. Le problème, c'est avec les ados, enfin les jeunes, je sais pas si c'était des ados, j'en sais rien, mais avec les jeunes, je trouvais que ça passait absolument pas, que ça sonnait faux, et c'est ça qui m'a vraiment gêné. J'ai trouvé que c'était, bon, on se met dans la peau d'un jeune, nous, jeunes normaliens ou jeunes étudiants qui font du théâtre, là, on se met dans la peau d'un jeune. J'ai trouvé que ça collait vraiment pas. On sentait que c'était pas naturel et au théâtre, ça me gêne un petit peu.
Merci à tous les trois. On sort maintenant du théâtre Cantor pour se précipiter au Célestin. La drôle d'idée, me direz-vous. Dis donc, Nicolas ! On sèche des conférences de rédaction pour aller voir Les aiguilles et l'opium de Robert Lepage ? J'espère au moins que tu as des choses intéressantes à en dire.
Ben oui, hein, sinon je t'aurais pas proposé de faire une chronique sur ce spectacle que, alors je le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé, alors je vais vous en parler un petit peu. Tu l'as dit, c'est donc la pièce Les aiguilles et l'opium, une pièce de Robert Lepage et aussi mise en scène par Robert Lepage, qui est un auteur et metteur en scène canadien, il est important de le préciser. C'est un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui fait des mises en scène vraiment originales et captivantes et époustouflantes et tout ce que vous voulez, j'ai beaucoup d'adjectifs pour lui. Donc voilà, là j'ai pas été déçu. Alors rapidement, l'intrigue elle est assez classique, mais en même temps un peu originale. C'est-à-dire qu'on suit un acteur qui travaille essentiellement par des petits boulots de doublage pour des documentaires, qui est un Québécois qui vient en France pour doubler. Cet acteur vient de se faire larguer par sa femme, il est dans une phase dépressive un peu bizarre, et dans ses bagages, il a simplement un CD ou un enregistrement de Miles Davis et un texte écrit par Jean Cocteau. Et donc en fait, toute la pièce, on va avoir cet homme donc mis en scène, sa vie, son court passage en fait à Paris, où il essaie de combattre le chagrin qui lui inspire son abandon par sa femme, au travers de l'acupuncture, de psychothérapeutes tous plus barrés les uns que les autres. Et entre les scènes où on voit cet homme, on a également des passages où on voit donc Jean Cocteau, joué par le même acteur, mais avec une voix différentes, je vais vous parler de l'acteur tout de suite. Et on a aussi des scènes avec Miles Davis, son passage à Paris, son retour à New York. En fait, c'est une pièce qui se passe entre Paris et New York. Et Miles Davis, sa relation avec Juliette Gréco, avec pas mal de vidéos d'archives, et un acteur noir qui jouait Miles Davis, qui avait une trompette. Alors j'ai pas réussi à savoir si il jouait vraiment ou si c'était un enregistrement. Connaissant Robert Lepage, tout est possible. Voilà. Concernant l'acteur principal, donc qui jouait le héros et également Jean Cocteau, c'est Marc Labrèche. Alors peut-être que ce nom va sonner connu aux oreilles de quelques auditeurs. Si comme moi vous regardez des séries débiles et que vous aimez les parodies, ce genre de choses, vous avez peut-être déjà vu à la télé ou même sur internet Le cœur a ses raisons, qui est une gigantesque parodie que Clément apparemment aime autant que moi, des Feux de l'amour, et où l'acteur principal, en fait, qui joue les trois personnages principaux, Brett Bratt et Brenda Montgomery, les trois personnages sont joués par Marc Labrèche. Et c'est à mourir de rire. Alors avec en plus Marc Labrèche, il a un petit accent québécois qui est à mourir de rire. Enfin voilà, cette série, allez la voir, franchement. Moi je suis arrivé, on m'a dit c'est Marc Labrèche. Je me suis dit mais où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? Et puis je l'ai vu arriver et du coup je me suis demandé ce que j'allais bien voir comme pièce. Et finalement, bah, il est capable de jouer très sérieusement. Alors évidemment, il est à mourir de rire dans les scènes chez le psychothérapeute. Quand il joue Jean Cocteau, c'est à pleurer de rire. Jean Cocteau avec l'accent québécois, juste imaginez un petit peu. Mais ce qui était vraiment impressionnant dans cette pièce, comme dans toutes les pièces de Robert Lepage, c'était la mise en scène. Au lieu de jouer toute cette pièce sur la scène, les acteurs jouaient en fait à l'intérieur d'un demi-cube. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un cube avec 6 faces, il y avait seulement 3 des faces. Et dans ces faces, il y avait des objets qui apparaissaient en fait, qui arrivaient dans le cube. Il y avait des régisseurs derrière qui ouvraient des trappes, faisaient glisser un lit à l'intérieur du cube, retiraient le lit, faisaient glisser une porte. Avec un jeu de lumière, en fait, on voyait une porte et en fait, il ouvrait la porte. Enfin, c'était vraiment incroyablement bien réalisé. Et ce cube, pour chaque changement de scène, ce cube pivotait. Et donc, on voyait la scène qui commençait à basculer, les acteurs qui s'asseyaient par terre et qui glissaient vers un mur. Et finalement, ils arrivaient sur le sol et derrière, les objets de la pièce dans laquelle ils étaient disparaissaient dans les murs pour que d'autres objets apparaissent. Et donc, il y avait un travail un peu d'acrobate, de contorsionniste. C'était vraiment magnifique. Jean Cocteau était la plupart du temps accroché en l'air par des poulies et il récitait ses textes en mode Deus ex machina, donc avec un accent québécois, je le répète. C'était vraiment incroyable. Et donc voilà, j'ai été bluffé par cette pièce, comme à chaque fois que je vois une pièce de Robert Lepage, parce que finalement, même si le contenu de la pièce n'est pas extrêmement original, il est juste intéressant, sans plus, c'est une histoire qui pourrait être arrivée, qui est très réaliste, très banale, mais il arrive à y mêler des éléments passionnants comme la vie de Miles Davis, il arrive à ajouter de l'humour et surtout il arrive à nous faire passer un moment de spectacle assez phénoménal avec ses artifices de mise en scène.
Et donc pour le fan club de Labrèche, adressez-vous à Nicolas Auvray, écrivez à redaction@transistor.fr. Merci Nicolas. « Chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce numéro d'En Spectateur. Je remercie Mathilde d'être venue topless. Je salue Nicolas et Clément, en alternance à la technique. On est comme ça à Transistor, on fait des tournantes dans le studio. Nous vous retrouverons à une date indéterminée, la programmation 2015 dans scène n'étant pour l'heure pas fixée. En attendant, je vous conseille le festival de Quatuor qui sera proposé dans le courant du mois de décembre, toujours par en scène. D'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
en spectateur.